Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, feux d'amour et de gloire, soient avec vous maintenant et pour toujours. Cordiale bienvenue à cette seconde journée d'enregistrement et cette fois de la troisième et quatrième cassette qui vont compléter ce qui va s'appeler la première série des 10D. Cette série, la première, va inclure exactement la moitié des 20 chapitres inscrits au feuillet d'accompagnement. Les 10 autres chapitres seront abordés dans une deuxième série de 4 cassettes qui ne seront mises en circulation à dessein qu'en début de l'année prochaine, 1995-95, car, comme je le dis souvent, en tous les domaines, y compris celui-ci, il faut éviter la boulimie. Je rappelle que cet enseignement est réservé aux chrétiens vraiment adultes seulement. Afin de poursuivre l'enseignement avec méthode, nous reprenons donc en main notre feuillet d'accompagnement. Comme vous le constatez encore une fois, cet indispensable instrument de travail est de double grandeur par rapport au format des feuillets précédents. Il comprend en ses 12 pages, outre le schéma détaillé des 20 chapitres, le rappel de ce que sont au juste les 10D et de nombreuses explications et citations. Et en passant, je ne peux m'empêcher de féliciter nos co-directeurs du service des éditions pour cette magnifique réalisation des mieux réussis. Vous serez également heureux, j'en suis sûr, de la belle présentation des mini-albums qui contiendront chacune des deux séries de 4 cassettes. Par cette deuxième partie, et vous allez très tôt vous en rendre compte, nous entrons dans le vif du sujet des 10D, sujet qui, à mon avis, est vraiment grave, prioritaire et brûlant d'actualité. Mais avant d'aborder les 4 chapitres, 7, 8, 9 et 10, qui composent cette deuxième partie de notre partage fraternel d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, allons relire ensemble à la page 3 du feuillet d'accompagnement, les paragraphes 2 et 3 de l'avis important qui s'y trouve. On y évoque deux précisions qu'il est bon d'avoir clairement en mémoire au moment où nous abordons un sujet à la fois des plus importants et des plus délicats. Et je lis. Les 10D veulent venir en aide à la légion de ceux et de celles qui, ayant dit oui sincèrement au retour imminent de Jésus, au renouveau spirituel en profondeur de l'Église et à la mission prophétique de Jean-Paul II, ont déjà été la cible d'embêtements de toutes sortes, de représailles même, souffrent ou auront à souffrir des dires, des agir ou du mutisme de certains leaders spirituels qui, au sens biblique, ne voient pas ou n'entendent pas ce qui se passe de vraiment extraordinaire dans les âmes, l'Église et le monde à l'heure actuelle. Troisième paragraphe, la date d'expiration de cette médication, vraiment hors de l'ordinaire, correspond à la courte durée des temps exceptionnels que nous traversons d'ici l'an 2000. Après cette date, tous ces conseils et suggestions pratiques deviendront sans nécessité et sans effet. Leur prescription devra être entièrement révisée. Passons au chapitre 7. Dans ce chapitre 7, nous allons nous demander comment nous comporter face aux leaders spirituels qui ne voient pas et n'entendent pas. Et au premier point, par leader spirituel, qui au juste faut-il entendre dans ce cas-ci? Par chef spirituel, nous entendons pour les fins de cet exposé, d'une part, au sens strict, ceux et celles qui sont juridiquement en autorité, pastorale ou spirituelle sur nous, comme par exemple notre évêque, notre supérieur de communauté religieuse, locale ou majeure, notre curé ou leur délégué officiel, les dirigeants d'un mouvement ou d'une institution à laquelle nous adhérons librement, etc. Et d'autre part, dans un sens beaucoup plus large, nous entendons cette pléiade de personnes auxquelles nous recourons à l'occasion et qui exercent sur nous une certaine influence spirituelle et morale, comme par exemple notre directeur ou conseiller spirituel, notre confesseur, notre berger ou bergère du groupe de prière, un grand ami, une grande amie qui nous ont toujours beaucoup influencés dans la vie, tel ou tel prédicateur, théologien, enseignant, agent ou agente de pastoral, animateur, animatrice, ou même nos propres parents ou des membres de la famille qui jusqu'ici étaient pour nous des modèles et des chefs de file spirituels. Donc, tout ce que je vais préciser à la suite, aujourd'hui, pourra s'appliquer aux personnes qui sont ou qui ont autorité spirituelle ou pastorale sur nous, soit moralement et de fait, soit juridiquement et officiellement, donc de droit. On peut donc être appelé à la divergence, à la dissidence et à la distance à prendre vis-à-vis l'une ou l'autre de ces deux catégories de personnes. À l'heure de l'Église, en transition du style 1 actuel au style 2 nouveau, mes chers amis, les questions fusent présentement de tous les côtés, tant de la part des fidèles, laïcs ou religieux, que des prêtres. Et je cite, comment devons-nous nous comporter quand nos autorités, nos chefs spirituels, nos soi-disant leaders en Église s'avèrent de moins en moins au courant, syntonisés, aptes à capter tout le renouveau vraiment spirituel en cours au cœur de l'Église? Faut-il plier les chines, capituler, ou les rejeter, les attaquer, leur résister? Éclairez-nous au plus tôt, car les choses vont à ce point vite qu'on ne peut plus maintenant nous contenter de les attendre, ces leaders spirituels, et d'attendre leur conversion possible ou probable. Et je continue notre exclamation. À cette heure-ci, on veut répondre au Seigneur. On veut écouter sa voix, V-O-I-X, suivre sa voix, V-O-I-E. On ne peut plus continuer donc à marquer le pas et aller en zigzag parce que nos chefs ne savent encore trop où ils s'en vont et où ils nous amènent. Mes frères et mes sœurs, idéalement, et vous en conviendrez avec moi, une telle question ne devrait pas avoir à se poser en Église, du moins normalement. Et cet enseignement sur les 10D ne devrait pas être nécessaire. Si, bien entendu, tous ceux et celles qui sont en poste d'autorité spirituelle étaient vraiment tous des choisis et voulus là par le Seigneur, avaient une vie spirituelle en plein essor, vivaient déjà selon le style 2 nouveau, étaient des champions d'un climat modèle de vérité, charité et liberté à la fois et à qui mieux, exerçaient l'autorité à la manière de Dieu, bref, étaient des saints et des saintes à travers qui son amour, sa joie, sa paix et sa miséricorde fusent et se diffusent. Mais, hélas, comme on le sait fort bien, et on doit l'admettre bien à regret, cet idéal n'a pas et n'est pas toujours atteint. Loin de là. On n'a qu'à penser au nombre incalculable de nos frères et sœurs qui, au cours des siècles, ayant été déçus, bousculés, blessés, ou même scandalisés par des hommes ou femmes dits du Seigneur ou dits de l'Église, ont tout simplement tout abandonné, sont allés joindre les rangs de nos frères et sœurs séparés, se sont inscrits dans d'autres églises, ont passé à d'autres religions ou se sont joints à des sectes et à des cultes de tout genre. Il est donc devenu souverainement important, à ce moment-ci de notre histoire ecclésiale, à la toute veille de son véritable nouveau renouveau spirituel en profondeur par l'action de l'Esprit-Saint précurseur de ces tout derniers temps, que tout soit tenté avec grande sagesse et prudence vraiment chrétienne, non seulement pour neutraliser et empêcher d'inutiles déceptions, irritations, blessures, nouvelles de la part d'hommes et de femmes influents en Église, ce qui pourrait alors provoquer de nouveaux abandons, de nouvelles hémorragies hors de l'Église, mais pour que le peuple de Dieu ait les moyens bien discernés de contourner ces malaises temporaires avec le minimum possible d'inconvénients et de dommages. Ce guide pratique, intitulé « Les 10D », veut donc rendre un éminent service en Église, afin que tout s'y passe dans toute la mesure du possible, sans aigreur ni rancœur, sans tension ni pression, sans peur ni heurts inutiles. C'est un vade-mecum qui, je l'espère, sera fort utile à ceux et celles qui disent un oui sincère et profond au retour imminent de Jésus qui s'en vient rétablir les choses en son Église et dans le monde. Les ennuis que causent ces chefs spirituels qui ne voient pas, n'entendent pas et ne comprennent pas sont innombrables. D'abord, disons que, bien entendu, ils n'édifient pas, dans les deux sens du mot, c'est évident. Primo, ils ne donnent pas l'exemple. Secondo, ils ne construisent pas. Ensuite, ils persévèrent, s'enlisent dans le style 1 actuel, blessé à mort, et s'obstinent à conserver leur figuier stérile, ayant eu et ayant encore pourtant la chance de le sauver. Enfin, ils sont incapables, inaptes, face à ceux et celles qui optent déjà et s'engagent dans le style de nouveau, inaptes à les comprendre, à les entendre, à les discerner, et encore moins capables de les accompagner et encourager. Je tiens à faire la précision importante suivante. Cet enseignement que nous abordons dans cette deuxième partie s'adresse tout autant, remarquez bien, aux chefs spirituels qui, à l'inverse, sont eux-mêmes victimes de personnes ou de groupes qui, au sens biblique, ne voient pas ou n'entendent pas ce qui se passe d'extraordinaire présentement, tels ces évêques d'avant-garde spirituelle, ces supérieurs de communauté qui vivent déjà cette grande grâce des derniers temps, ces vrais de vrais leaders spirituels choisis et préparés pour ces temps exceptionnels, ils ne doivent pas, eux non plus, elles non plus, se laisser freiner, s'attarder indûment ou stopper à cause de l'incompréhension, des polémiques, des critiques de leurs ouailles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas plonger dans la foi. Deuxième section de ce chapitre. Une attitude adulte et une altitude chrétienne sans précédent en Église s'imposent de toute évidence face aux défis nouveaux qui se posent de plus en plus à bien des fidèles. Mes frères et mes sœurs, il n'y a jamais eu et il n'y a pas encore aucun enseignement qui ait été donné officiellement en Église sur ce que les fidèles doivent dire, penser ou faire, ou éviter de penser, de dire ou de faire, quand l'un de leurs pasteurs ou leaders fait défaut spirituellement. On est parti de l'hypothèse, semble-t-il, qu'un tel cas ne pouvait vraiment pas ou ne devrait sûrement pas se poser en Église. Que normalement, a-t-on cru ou croit-on, tout évêque doit être parfait sur toute la ligne. Tout curé ou vicaire est nécessairement impeccable dans l'exercice de ses fonctions. Tout supérieur et toute supérieure est un modèle. Bref, on aime plutôt penser que les problèmes ne se situent pas, ou très peu, au niveau des dirigeants en Église. Alors que, dans l'enseignement social et moral de l'Église, on a courageusement abordé toute la question des chefs civils, politiques, économico-sociaux, qui peuvent être incompétents, trop dominants, abusifs dans l'exercice de leur pouvoir. On est plutôt demeuré réservé, avare de conseils, par ailleurs, quand il s'agit de chefs dits spirituels en Église, devenus, consciemment ou inconsciemment, décevants, incompétents, répréhensibles, ou qui outrepassent leur mandat et leur rôle. Jadis, il y a 50 ans et plus, du moins chez nous, obéir en Église était plutôt facile et moins conséquent, car en fait, on vivait davantage en chrétienté, et nos chefs spirituels, de façon générale, nous proposaient différents types de routes, certes, mais toujours vers un même but, en définitive. Les uns pouvaient nous suggérer une autoroute, d'autres chefs plutôt une voie de service, ou encore une route pavée ou gravelleuse, ou plus longue ou plus courte. D'autres parfois nous amenaient dans d'inutiles détours. Mais, somme toute, autrefois, cela finissait par nous conduire, veut, veut pas, à des vitesses et dans des délais variés toujours, dans la bonne direction du bon Dieu. À la vérité, il s'agissait donc plutôt de détournement de route que de détournement de fond. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose ni le même défi. À l'heure du Big Bang spirituel, à l'heure d'une Église qui entre dans une métamorphose sans précédent, qui va voir son style 1 actuel s'effondrer et son style 2 nouveau lui succéder, l'enjeu est tout différent. Ce n'est plus seulement une question de différents types de routes, de voies d'accès, de moyens conduisant grosso modo dans la même direction, mais c'est aujourd'hui, au contraire, un choix radical définitif entre deux directions, deux styles, deux destinations tout à fait opposées. Soit une Église véritablement en lui et tout à lui, ou une Église encore trop à nous et seulement pour lui. Une Église sous le pouvoir de l'Esprit ou sous l'Esprit de pouvoir. Une Église qui se résigne à son déclin en cours ou qui accueille son essor, son avec un grand S, son essor à lui à travers nous. Bien entendu, la grande majorité de nos chefs spirituels, Dieu merci, sont sincères et veulent le bien de leurs ouailles et croient vraiment que l'orientation qu'ils ou qu'elles proposent est vraiment, en principe, la bonne et la meilleure. Mais, comme il s'agit de facto de direction, de destination et d'option radicalement opposées et tout à fait irréconciliables, que faire alors? Pour prendre un exemple, on sait fort bien qu'en partant de Montréal, je ne peux pas m'en aller à la fois, en même temps, avec le même guide, vers l'océan Atlantique à l'est du pays et en même temps vers l'océan Pacifique à l'ouest du pays. Je ne peux pas prendre en même temps une option septentrionale vers le nord et une option méridionale vers le sud, en même temps avec le même groupe et sans escale. Tout cela est bien évident. Et je ne peux pas avoir le même guide simultanément en route vers deux directions et destinations opposées. Et c'est précisément ce qui nous attend tous au cours des années en cours. Nos chefs ou autorités en place vont avoir, eux et elles aussi, à prendre l'option de leur véritable orientation d'Église. Fini le temps du surplace, de la poudre aux yeux, des tergiversations, des faux fuyants, des conciliations inconciliables. Chacun et chacune de nos leaders, veut pas, doit opter, se brancher, révéler ses vraies couleurs. Et c'est là qu'à notre tour, on saura si le « suis-moi » du Seigneur et la voix du bon pasteur se vérifie ou non en lui ou en elle, du moins quant à nous, ou si, au contraire, se révèle une contradiction, un risque et un danger à continuer de l'écouter ou de le suivre, ce leader. On peut bien noter en passant que la formation à la divergence de vues et au désaccord dans la paix de conscience, et vous en conviendrez avec moi, ne nous a jamais été donnée par nos autorités, soit scolaires, soit familiales, ou encore moins politiques, ecclésiales ou religieuses. On a beaucoup plus insister dans notre éducation sur l'obéissance, la soumission, pour ne pas dire davantage. Deux conséquences inévitables s'en sont suivies, une attitude de plus en plus grande de pouvoir de la part de certaines autorités et une attitude de plus en plus grande de suggestion, d'assujettissement de la part de bien des sujets. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire, mes frères et mes sœurs dans le Christ, au nom du Seigneur, que si vous vous rendez compte vraiment, après avoir pris tous les moyens et franchi toutes les étapes que je vais indiquer à la suite, au chapitre 8, 9 et 10, que votre supérieur ecclésiastique ou religieux est, même dans sa bonne foi, plus ou moins bien branché par en haut, est sur la mauvaise longueur d'onde spirituelle, est, pour employer une expression populaire ici au Canada, quelque peu spirituellement parlant, à côté de la traque, c'est-à-dire à côté de la voie ferrée, sort des rails, vous ne devez pas le rejeter pour autant. Encore moins le critiquer, le juger ou le condamner. Mais vous avez le droit de cesser de le suivre et de vouloir l'imiter, puisque veut pas, qu'il le sache ou non, il est en train de se tromper de route et de vous induire en erreur, malgré son bon vouloir et son grand savoir. Il faut cependant, et j'insiste à nouveau, après avoir tout fait et bien fait le nécessaire, dont nous parlerons au chapitre suivant, le porter dans la prière, lui pardonner, l'aimer, le respecter, demeurer toujours prêt à l'éclairer, l'aider, souhaiter sincèrement qu'il sorte le plus tôt possible de son aveuglement ou de son égarement. Mais tout cela, en continuant de suivre courageusement là, ou ça avec un grand S, sa route qui vous est demandée par le Seigneur, sans lui ou sans elle, ce chef, ce leader, en toute paix de conscience, en toute détente et joie, même si cette route va en direction ou en sens opposé ou notablement différent de celui de votre supérieur, de votre évêque, en titre et en fonction. Je l'ai dit et je crois utile de le répéter. Si jadis en Église, vivante et fervente, les autorités pouvaient par erreur, négligence ou ignorance nous entraîner dans des détournements de route, à l'heure où nous en sommes, celle de ce grand Big Bang spirituel, nous risquons beaucoup plus. Non seulement des erreurs de parcours, mais de fausses et malheureuses options et orientations. Souvent, elles aussi, par ignorance et négligence, mais joliment lourdes de conséquences pour chacun. Et passons à la troisième et dernière question dans ce chapitre 7. Comment faire face aux autorités ou aux chefs spirituels concernés? Mes amis, ne cherchons pas des coupables ou des gens à inculper. Dans tout cet enseignement sur les 10D en Église d'aujourd'hui, je vous exhorte donc à choisir et à conserver du début à la fin la même approche que moi, en toute cette analyse plus que délicate et lourde de conséquences. Il y a, et il y aura de plus en plus de leaders spirituels à tous les niveaux, qui, une fois leur masque tombé, une fois décapé leur faux vernis, une fois démaquillé sous la chaleur des événements interpellants actuels, vont nous apparaître comme ne voyant pas ou n'entendant pas ce qui se passe de vraiment extraordinaire en ces temps présents exceptionnels dans toutes les âmes, dans le monde et dans l'Église. Contentons-nous, je vous en supplie, de constater le fait, de le regretter vivement, d'en avoir même un véritable chagrin spirituel. Mais de grâce, et permettez-moi d'insister à nouveau, ne jugeons pas ces personnes, évêques, cardinaux, prêtres, supérieurs, directeurs spirituels, dirigeants engagés en Église, etc. Évitons de les condamner, de les culpabiliser, encore moins de les lapider, et cela même si certains, devenus amers ou agressifs, nous lancent eux-mêmes des pierres. L'heure n'est pas à chercher des coupables, mais d'une part, à savoir comment et pourquoi il faut poursuivre notre route en Église malgré toutes ses défaillances. Et d'autre part, qu'il faut savoir pardonner et aider ses frères et sœurs, leaders spirituels, qui font ainsi faux bond à ce moment-ci de l'histoire du peuple de Dieu en marche. Beaucoup d'entre eux, et d'entre elles d'ailleurs, il faut y penser, sont plutôt victimes que responsable de ce qui leur arrive. Au moins 3 sur 4, à mon humble avis, ont souvent été préalablement déçus, induits en erreur ou inhibés eux-mêmes par d'autres leaders ou chefs de file. Et ils ou elles réagissent au meilleur de leur connaissance ou de leur conscience, souvent amoindris ou obscurcis, tout à fait à leur insu. Il faut donc mettre tout son courage et ses efforts à faire face à la situation telle qu'elle est, et avec sa grâce, trouver les meilleurs moyens de neutraliser ces obstacles, de continuer à grandir spirituellement en Église, ailleurs et autrement. Je tiens à le redire, redire et re-redire. Les personnes qui ne voient pas ce que l'on voit, n'entendent pas actuellement ce que l'on entend, ne sentent pas spirituellement ce que l'on sent, ne comprennent pas ce qui nous semble à nous pourtant si facile à comprendre, ne sont pas pour autant disqualifiées, méchantes, dépourvues ou à condamner. Dans les groupes de ceux et celles qui s'avèrent incapables, du moins encore, de capter cette nouvelle longueur d'onde enseignée, offerte et établie par l'Esprit du Seigneur, parmi ces gens, il se trouve d'excellentes personnes, de ferventes et saintes personnes, souvent bien qualifiées, diplômées haut la main, des mieux intentionnées, on ne peut plus dévouer. Mais sur le plan qui nous concerne, celui du nouveau renouveau continu spirituel, en style 2, de l'Église et du monde en ces derniers temps, quant à eux, ça ne clique pas. Ce n'est pas leur spécialité, leur hobby, leur violon dingue. C'est tout. Il ne faut pas en faire un drame. Un jour, ce sera leur tour. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion d'écouter déjà un certain nombre d'enseignements, vous vous souviendrez sûrement que très, très souvent, je m'exclame en disant que si on a la chance de voir, d'entendre, de percevoir et de comprendre tout cela, ce n'est pas parce qu'on est supérieur, plus intelligent et qualifié, plus brillant que les autres, mais simplement parce qu'on a eu de la chance, qu'on est plus comblé et qu'on a répondu à une grâce particulière à cet effet. Écoutons bien le conseil suivant et gravons-le dans notre cœur. Nous avons à aimer l'autorité en tant que telle inconditionnellement. Mais nous n'avons pas à suivre telle ou telle personne en autorité inconsidérément. L'amour de Dieu pour chacun de nous, on le sait, est inconditionnel. Mais son amour n'est pas inconsidéré. Si l'on doit aimer l'autorité en tant que telle, et quoi qu'il arrive, c'est que toute autorité au point de départ vient de Dieu, et au point d'arrivée va normalement à Dieu. Et c'est pour cela qu'on doit accueillir, apprécier et favoriser en principe l'exercice de l'autorité. Et toute personne en autorité a le droit et le devoir d'exercer son autorité dans cette perspective divine, donc de nous transmettre au meilleur de sa connaissance et de sa conscience la volonté de Dieu sur nous et sur le milieu, nous l'expliciter, l'actualiser en quelque sorte par son exemple, ses paroles et ses directives. Tant que cette personne, en autorité, nous semble bien respirer et expirer ce bon vouloir divin, le bien personnel et le bien commun, car il faut penser à l'ensemble, cela exige qu'on écoute et suivent les directives de tel chef qui représente bien Dieu parmi nous et nous conduisent bel et bien vers lui. Mais, oui, mais, quand la bonne relation et la communication entre l'autorité avec un grand A, qu'est Dieu, et la personne placée en autorité avec un petit a, pour bien représenter Dieu, ne semble pas exister, semble même s'opposer, se contredire, on n'a pas à suivre inconsidérément cette personne en autorité, si élevée que soit son titre ou sa fonction d'église. On n'a pas le droit de la laisser à cause de ses dires ou de ses comportements, ou même de ses silences et ses omissions, commencer à semer le doute, la méfiance, l'agressivité au fond de nous-mêmes ou face à l'Église en tant que telle. Trop, beaucoup trop de fidèles ont hélas attendu trop tard pour prendre leur distance et affirmer leurs divergences et dissidences légitimes. Il faut continuer à aimer l'autorité vraie, inconditionnellement, malgré de telles lacunes, si nombreuses, si regrettables et si importantes soient-elles. Mais, après un bon discernement spirituel et consultation, il faut chercher ailleurs et autrement. De meilleures personnes en autorité, c'est-à-dire qui, elles, font autorité. Bien entendu, chacun de nous souhaiterait de tout cœur que ces désagréables ou troublantes surprises ne mettent pas en cause son propre évêque, son propre curé, son propre supérieur ou aumônier, son propre berger ou dirigeant de mouvement. Un autre ailleurs, ça pourrait s'encaisser. Mais le nôtre, qu'allons-nous donc dire ou faire? Mais, mes amis, c'est et ce sera inévitable. Selon toute probabilité, les masques tombant, on va en découvrir ici et là, un peu partout, chez nous comme ailleurs. Mais n'ayons crainte. Le Seigneur ne nous laissera jamais orphelins et sans guide. Et là où le choisi du Seigneur de droit fera défaut, même involontairement ou même inconsciemment, le Seigneur substituera au déioré de droit des chefs de file de facto de fait. Nous aurons bien entendu l'effort à faire de les repérer, mais leur lumière nous rejoindra, leur exemple et leur force nous entraîneront. Ces chefs de facto ne seront pas nécessairement dans les rangs hiérarchiques. Je l'ai souvent dit et redit, le plus fort du leadership spirituel s'en vient souvent, faute de mieux, de bas en haut en Église, présentement en pleine métamorphose spirituelle. Et passons maintenant, si vous le voulez bien, au chapitre 8, qui a pour titre « Il est urgent et important de redécouvrir tout le vrai sens et l'exacte portée de l'obéissance chrétienne ». Avant d'aborder les deux points A et B indiqués dans le feuillet d'accompagnement, entre nos mains, j'ai pensé qu'il serait peut-être utile, indiqué même, en tout cas sûrement pas superflu, de nous rappeler brièvement, dans leurs grandes lignes, le sens, la portée et la raison d'être en Église, tant de l'obéissance et sa bonne pratique, que de l'autorité et de son bon exercice. Ce rappel préparera le terrain, je devrais plutôt dire la table, et ouvrira l'appétit au vin nouveau du Seigneur qui va suivre. Obéir peut se définir de bien des façons selon l'aspect sous lequel on examine cette vertu. Je vais tenter de vous partager ce que j'ai appris ou réappris dans un récent vin nouveau du Seigneur. Vous allez constater avec moi comment, quand c'est lui qui nous enseigne, et qu'on accepte d'être petit enfant devant lui, comment ses enseignements sont toujours simples, clairs, faciles à capter et à retenir. Je vous livre donc en capsule, en résumé seulement, ses explications et ses l'application concernant l'obéissance chrétienne, donc celle qui devrait normalement se vivre en Église, être appréciée et accueillie même avec enthousiasme. Obéir, c'est quoi au juste? Obéir, c'est adhérer de bon gré à une vérité que Dieu nous présente. Y adhérer avec tout son amour à lui, dans le complet respect de toute notre liberté. On retrouve donc ici, encore une fois, l'important, que dis-je, l'indispensable triptyque, vérité, charité, liberté. Le circuit vrai, heureux et chrétien de l'obéissance ne peut vraiment se poursuivre que là où les trois se retrouvent à la fois. Dans l'ouvrage bien connu « Je veux voir Dieu » du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un carme, on lit ce qui suit. « L'obéissance est une vertu qui unit l'homme à Dieu en le soumettant à la volonté divine, manifestée, notons bien, par Dieu lui-même directement ou ses représentants. » Et dans le tout nouveau catéchisme, on trouve d'excellentes réflexions sur l'obéissance. À l'article 851 et suivant, parlant de la mission même de l'Église, on lit ce qui suit. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la connaissance de la vérité. » Je cite toujours, « Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. » Et on me fait signe que le temps est écoulé, nous poursuivrons dans un instant.